La grâce, la miséricorde et la paix nous sont données de la part de Dieu notre Père, en Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Frère. Tous, pauvres ou riches, jeunes ou vieux, malades ou bien portants, tristes ou joyeux, nous sommes l'enfant profondément aimé par Dieu. Alors chantons ensemble la louange à Dieu avec le premier chant que vous trouverez dans le psautier français, dans le petit livret liturgique qui est au début. Bénissons Dieu, le seul Seigneur. Éternel, c'est toi qui es Dieu, il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Nous sommes le peuple que ta main conduit. Alors je vous propose de chanter ensemble le psaume 62b, donc « En toi, mon Dieu, en toi seulement, j'ai retrouvé l'apaisement ». Troisième strophe. Et la cinquième. Vous pouvez prendre place. Voici ce que Jésus-Christ nous propose de vivre selon le témoignage des évangiles. Écoute, le Seigneur notre Dieu est le seul Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Tu l'aimeras avec intelligence. C'est là le premier et le grand commandement, et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Aucun commandement n'est plus grand que ces deux-là. Alors face à cet idéal infini de l'amour, nous reconnaissons devant Dieu que nous avons besoin de son aide pour arriver à le vivre de plus en plus. Alors je vous propose de suivre du cœur ce psaume, cette prière de David. Écoute Éternel, je t'appelle. Pitié, réponds-moi. Mon cœur m'a redit ta parole, cherchez ma face. C'est ta face, ô Éternel, que je cherche. Ne me cache pas ton visage. N'écarte pas ton serviteur avec colère. Tu es et tu seras toujours mon secours. Ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu, mon salut. Montre-moi ton chemin, ô Éternel, conduis-moi par des routes sûres. Malgré tout le mal, malgré la faiblesse, malgré la douleur qui me guette, ne me livre pas à la merci de l'adversité. Mais j'en suis sûr, je verrai les bontés de l'Éternel sur la terre des vivants. C'est lui-même qui me dit, espère l'Éternel, sois fort et prends courage. Espère l'Éternel. Mais voici ce que déclare l'Éternel à chacune et chacun d'entre nous. Même si les montagnes s'effondraient, même si les collines chancelaient, ma bonté pour toi ne faiblira pas et mon alliance de paix avec toi ne sera pas ébranlée, car je t'aime d'un amour éternel. Et voici comment Dieu a manifesté son amour pour nous. Il a envoyé son Fils, son unique, dans le monde afin que nous ayons la vie par lui. Et en lui, Dieu se penche vers nous et nous dit « Lève-toi et va, tes péchés sont pardonnés, ta foi t'a sauvé, avance dans la paix. » Nous chantons à Dieu notre reconnaissance. Vous pouvez prendre place et je voudrais accueillir chaleureusement le jeune Alexandre qui a 4 mois ou 5 mois et qui va, combien ? 4 mois et demi, voilà, je suis entre les deux. Donc bienvenue à ses parents, Christophe et puis Stéphanie, bienvenue aux grands-parents, alors en particulier je salue Alphonse Ngoma, bien sûr, qui nous connaissons bien puisqu'il était conseil presbytéral. Et puis bienvenue, bien sûr, à tous ceux qui entourent votre famille, en particulier aux catholiques. Bien entendu, il y a un seul baptême. Ce n'est pas un baptême protestant, c'est simplement un baptême chrétien. Le fait est que c'est une église protestante, mais c'est complètement en commun, complètement reconnu aussi bien par les catholiques que par les protestants. Donc ce baptême, c'est le signe de l'amour que Dieu a pour ce garçon, Alexandre, en particulier. Alors bien sûr, il est baptisé de force, si je puis dire, mais c'est aussi de force qu'il est aimé par ses parents. Et sa liberté à lui, c'est de savoir comment il peut répondre à tout cet amour qui lui est donné, et en particulier à l'amour de Dieu. Et donc il pourra, un jour, s'il le désire, entrer comme disciple du Christ dans l'Église catholique, dans l'Église protestante, ou bien faire d'autres choix. De toute façon, ce baptême rappelle qu'il n'y a aucun chantage, que Dieu lui accorde son amour. Alors tout à l'heure, c'est une adulte qui sera baptisée ici, Arlette, en toute liberté et puis en conscience, mais elle aussi est au bénéfice finalement de ce baptême qui dit un amour sans condition et un amour de Dieu qui précède même notre existence. Nous rendons grâce à Dieu. Oui, c'est notre joie et notre salut de t'adorer, ô notre Dieu. C'est toi qui viens vers nous pour nous donner ta présence et tes bienfaits. Nous te rendons grâce pour cette merveille qu'est une vie nouvelle. Vie nouvelle et pourtant recevant la vie de génération en génération, recevant de l'amour, recevant témoignage de foi à travers l'Évangile qui est transmis. Alors merci éternel notre Dieu pour tous ceux qui apporteront en particulier à ce petit garçon, Alexandre, la nourriture nécessaire pour son corps, pour son intelligence, pour sa personnalité, pour nourrir aussi sa capacité à aimer son prochain et toi, son Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors parents, parrains et marraines, votre Alexandre, par son baptême, sera chez lui dans la communauté chrétienne. Aucune contrainte ne l'y retiendra. Et si jamais il venait à s'en séparer, sa place resterait toujours marquée, toujours prête pour le recevoir. Pour répondre à la bonté de Dieu qui le reçoit, même unilatéralement dans son alliance, vous resterez pour Alexandre un exemple dans la mesure de vos forces et un appui. Vous prierez pour lui, vous l'instruirez, vous le soutiendrez, vous l'aimerez, afin qu'il puisse parvenir lui-même à la foi, qu'il ait cette possibilité. Alors, c'est maintenant le moment de vous approcher du baptistère pour qu'il puisse être baptisé. Donc peut-être faut lui enlever ce joli petit chapeau blanc parce que sinon ça va être un peu gênant. Et donc vous pouvez venir, donc les parents, parrains et marraines autour de ce baptistère. Alexandre, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Oui, Alexandre, Dieu te bénit et te garde. Aujourd'hui et pour l'éternité, il t'accompagne jour après jour sur la route qui sera la tienne et il l'éclaire de sa lumière et de son amour. Alors, parents, parrains et marraines, vous pouvez prendre les engagements finalement que l'Église vous propose. Vous voulez faire connaître à Alexandre la grâce de Dieu manifestée en Jésus-Christ. Alors c'est avec joie que l'Église préparera avec vous... S'il vous plaît, monsieur, je suis désolé, mais est-ce que vous pourriez prendre place? Ce serait parfait. C'est avec joie que l'Église préparera avec vous, Alexandre, à découvrir cette foi et ce trésor qu'est la Bible quand on la lit et quand on cherche à l'interpréter personnellement. Alors les parrains et marraines que vous avez choisis sont tout à fait importants pour vous. Et donc, vous avez voulu dire quelques mots pour nous les présenter.
Augusto, tu es un ami proche. Tu es un ami proche pour Christophe. Tu as eu un très beau geste pour nous lors de notre mariage. Tu nous as fait un magnifique dessin qui trône dans notre salon. Tu es une personne ouverte, cultivée, spirituelle. Tu es une personne ouverte, cultivée et spirituelle. Et nous savons que tu seras un très bon guide pour Alexandre. Nous sommes très émus que tu aies accepté d'être son parrain aujourd'hui.
Tante Danielle, tu es une amie, une tante et une maman pour Stéphanie. Tu as toujours été là pour nous et tu nous as toujours entourés de ton amour. Tu nous as souvent guidés afin que nous restions toujours du côté de la raison. C'est pourquoi en ce jour béni, nous sommes fiers que tu acceptes de guider spirituellement notre fils Alexandre.
Merci beaucoup, voilà, pour ce discernement. Et alors, Christophe a choisi, donc le parrain a choisi de nous lire un passage de l'Évangile. Merci beaucoup.
Je suis très content de vous avoir tous ici. En revanche, J'aurais besoin d'une Bible.
Elle est où, la petite feuille, la petite feuille. C'est là. L'Évangile selon Marc.
Lecture de l'Évangile selon saint Marc, chapitre 12, 30-31. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela.
Merci beaucoup. Et donc la marraine, elle a choisi, elle, de lire quelques paroles dans l'Évangile selon saint Jean.
Merci. Bonjour à tout le monde. Dieu a tant aimé Jean 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 14, verset 27, c'est Jésus qui parle. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde vous la donne. Ne soyez pas inquiets, ne soyez pas effrayés. C'est dans ce sens que je me permettrai de compléter l'éducation d'Alexandre, en plus de celle de sa famille, de l'école, de son parrain, et aussi de l'Église. Enseigner à Alexandre qu'il ne suffira pas de se contenter d'une foi. Il faudrait que j'enseigne à Alexandre qu'il ne suffit pas de se contenter d'une foi d'emprunt. Ses parents lui montrent le chemin, mais Alexandre devra lui-même établir une relation directe et confiante avec Dieu, notre Dieu, celui-là même qui a fait un sacrifice suprême par Jésus afin que nous soyons sauvés. Avec Alexandre, malgré les nouvelles technologies qui ne finiront pas de nous épater, je travaillerai autour de deux axes, la foi et l'espérance, deux vecteurs qui sauvent. Apprendre à Alexandre qu'après la mort, nous ne serons pas sauvés uniquement en fonction de notre conduite, mais aussi nécessairement acceptons, parce qu'on accepte Jésus dans notre quotidienneté et pour toujours. Jésus est le chemin qui mène à la vie, mon cher Alexandre. Et foi en lui et par lui, Dieu aimant t'attend. La spiritualité ne se vit plus par une religion, mais ne se vit pas nécessairement par une religion, mais par une relation confiante avec Dieu, un Dieu présent qui sera là à tout moment, tes moments de joie et de peine, un Dieu qui console et qui relève. Ça le vaut pour tout le monde. Merci, chers parents, de l'affection et de l'amour que vous me témoignez, vous aussi. Je vous aime.
Merci beaucoup à vous tous. Et puis, vous avez choisi de nous faire chanter le cantique 204, « Seigneur dirige et sanctifie », les deux premières strophes donc de ce cantique. « Seigneur dirige », je vous propose de vous lever pour chanter ce cantique. Non, vous pouvez aller. Non, vous pouvez.
Thank you.
Alors vous pouvez prendre place. Et donc c'est avec grande joie que j'accueille Arlette maintenant, qui a demandé à recevoir le baptême parmi nous ce matin. Alors c'est vrai que c'est un geste fort qui vient marquer un cheminement sincère, vrai, intelligent, engagé, fait de lecture, fait de prière, fait de recherche, fait de discussion. Alors vous êtes venu au cycle d'initiation à la théologie, vous avez fouillé sur le site internet de l'oratoire, vous avez participé au culte, aux réunions de prière, et vous voilà demandant le baptême ce matin. Et pour nous, c'est vraiment une grande joie que, voilà, par chance, ça soit au milieu de notre Église que vous demandiez, voilà, concrétiser ce cheminement qui la dépasse largement, cette Église. À ce Dieu qui vous dit « Tu es ma fille bien-aimée », vous répondez dans votre cœur déjà depuis quelque temps, et aujourd'hui, dans son Église, dont nous sommes un échantillon, « Tu es mon Dieu ». Alors c'est vrai que tout ce cheminement nous porte à la reconnaissance, mais ce cheminement est encore largement ouvert devant vous, et pas après pas, vous pourrez cheminer avec ce Dieu qui nous accompagne si fidèlement. Nous prions Dieu. Seigneur, selon ta promesse, envoie ton esprit de lumière et de vie. Accueille Arlette, que le baptême va marquer du signe de ta grâce, pour qu'elle entre dans ton alliance, visiblement, et qu'avec le Christ, elle reçoive, jour après jour, une dimension sans cesse nouvelle. Amen. Alors Arlette, je vous baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Dieu vous conduira sur le chemin de la vie dans sa force et dans sa joie. Alors afin de manifester la réponse à l'amour de Dieu qui est manifesté par le baptême, eh bien vous avez préparé un texte qui dit votre foi finalement. Alors si vous pouvez le partager avec nous, eh bien ça sera pour ce matin notre confession de foi. Et donc je vous propose de vous lever pour vous unir du cœur à cette confession de foi chrétienne.
Bonjour à tous. C'est avec une très grande joie et beaucoup d'émotion que je fais cette confession de foi. Je crois en Dieu, le tout proche, mon guide. Je le loue en pleine assemblée, devant mes frères et sœurs. Je crois en Jésus-Christ. Jésus est la résurrection, il est la vie. Je crois en l'Esprit Saint, ce souffle doux, témoignant de la présence active de Dieu. Je crois en l'amour, plus fort que la mort. Merci Seigneur de rester à mes côtés, de bien vouloir m'éclairer afin que je puisse être un élément, si petit soit-il, permettant que nous vivions tous dans un monde de justice, de joie et de paix. Amen.
Un grand merci Arlette. Gloire à Dieu dans les cieux et sur la terre et d'éternité en éternité. Amen. Vous pouvez prendre place, sauf vous, je... Alors vous avez accepté, Arlette, de nous dire quelques mots sur votre cheminement pour compléter un peu cette confession de foi que vous venez de faire. Donc merci beaucoup parce que ça demande du courage. On ne tient pas forcément à se raconter devant tout le monde, mais... Pour nous, c'est une chance supplémentaire parce que c'est vrai que ce qui vous a permis de franchir des paliers avec courage, parce que ce n'est pas évident de découvrir la foi chrétienne, eh bien, c'est ce qui vous a permis de franchir des paliers. Ça peut nous donner des idées, chacun d'entre nous, pour nous-mêmes franchir des étapes, avancer d'un pas ou d'un autre sur le cheminement de la foi. Donc, merci beaucoup.
Toute petite, je priais déjà Dieu, le soir, avant de m'endormir. Je faisais toujours la même prière, lui demandant de bien vouloir apporter la paix sur terre, de nous protéger. J'ai souvent regretté de ne pas avoir été baptisée bébé. Adulte, à plusieurs reprises, je me suis renseignée sans que mes démarches aboutissent. Mais enfin, j'ai découvert l'oratoire du Louvre, où l'on comprend et où l'on répond à mon besoin de mieux connaître le Seigneur. Aujourd'hui, je suis heureuse d'avoir demandé pleinement consciente le sacrement du baptême. Merci Seigneur d'avoir placé sur mon chemin tous ces êtres chers et tous ces signes qui ne peuvent laisser aucun doute sur ta présence.
Un grand merci. Merci. Nous prions Dieu. Ô notre Père, nous te remercions profondément pour Arlette, que ton amour nous permet d'accueillir aujourd'hui pour ce qu'elle est, pour ce qu'elle devient jour après jour, et pour tout ce qu'elle peut apporter au monde qui l'entoure. Alors grande est notre joie, et nous en sommes persuadés, grande, plus grande encore est la joie au ciel pour ce temps de vérité, ce geste de foi, ce geste de confiance en toi, notre Père à tous. Alors accompagne, épanouis, enrichis encore jour après jour la foi d'Arlette, et fais que cette foi produise des merveilles parmi les siens. Fais que son témoignage parmi nous à l'oratoire porte du fruit aussi en nous-mêmes, nous qui avons la chance d'être là ce matin. Que cela nous aide à nous approcher sans cesse plus de toi, à être plus confiants dans ta parole, à trouver notre propre vocation en ce monde pour le rendre plus beau et plus juste, comme Arlette nous l'a dit, et être ainsi plus et mieux au service des autres. Que ta joie, ô notre Père, soit notre force. Amen. Alors aujourd'hui, nous avons grande chance d'avoir donc Marcel Manoël, le pasteur Marcel Manoël, qui en plus d'être un cher collègue, est le président de la Fondation des Diaconesses de Reuilly, ce qui est une modeste entreprise rassemblant pas moins de 36 établissements, des hôpitaux, des maisons pour enfants, des personnes âgées, des centres d'hébergement, d'insertion sociale, des centres de soins palliatifs. Donc nous avons une diaconesse qui est ici, car c'est aussi une communauté religieuse, ces diaconesses merveilleuses de rayonnement. Et donc en particulier, nous avons la nouvelle, c'est une joie particulière de t'avoir, parce que vous venez d'accepter dans votre giron de Fondation des Diaconesses une œuvre caritative qui a été fondée par le pasteur Athanase Coquerel au XIXe siècle, qui par divers méandres de l'histoire eh bien, rejoignent maintenant la Fondation des Diaconesses. Donc c'est une joie de t'avoir et d'entendre la prédication que tu vas nous apporter, parce que c'est toujours si profond. Merci beaucoup Marcel.
Merci de cet accueil. Je suis effectivement particulièrement heureux de participer à votre culte, puisque c'est au mois de février de cette année qu'un décret du Conseil du ministère de l'Intérieur a intégré cette œuvre d'Athanase Coquerel dans la Fondation des Diaconesses. Et aussi, une sœur me l'a rappelé, parce que les Diaconesses fêtent cette année leurs 175 ans d'existence, et que cette existence a commencé ici même, le 6 février 1841, dans cet immeuble de l'oratoire, en attendant la réunion du consistoire qui était un peu tardive, semble-t-il, et quelquefois les retards ça sert, le pasteur Vermeil s'est mis à écrire la lettre qu'il envoyait à Caroline Malvezin pour lui demander de créer une communauté de femmes qui allait s'occuper des femmes libérées de la prison de Saint-Lazare. C'est donc que cela a abouti au mois de novembre qui a suivi à l'ouverture de cette maison. En ces temps-là, on pouvait aller vite et 9 mois suffisaient pour créer une œuvre. Et je suis particulièrement heureux d'être là pour marquer ce souvenir fort. Je vais vous proposer de partager ce matin quelque chose que j'ai reçu de cet engagement à la Fondation Diaconesse de Rueil comme dans la Fondation John Bost en méditant avec vous le thème du rétablissement qui traverse aujourd'hui le champ du sanitaire et du médico-social. Et pour cela, je vous propose deux lectures. Tout d'abord, un épisode que la Bible rapporte deux fois dans les livres d'Ésaïe et le deuxième livre des Rois, qui se situe vers 702 avant Jésus-Christ. Le roi Ézéchias règne sur Jérusalem et sur le petit royaume de Juda qui est autour. Le royaume d'Israël du Nord a déjà été vaincu par les armées assyriennes et la menace de ces armées est maintenant sur Jérusalem. Le prophète vient annoncer à Ézéchias sa mort prochaine, qui est en quelque sorte le symbole de la mort prochaine de son royaume. Alors, Ézéchias prononce cette prière en forme de poème. Moi, j'ai dit, au meilleur temps de ma vie, je dois m'en aller. Je suis assigné aux portes du séjour des morts pour le reste de mes années. J'ai dit, je ne verrai plus le Seigneur sur la terre des vivants. Je ne pourrai plus voir un visage d'homme parmi les habitants du pays où tout s'arrête. Ma vie est arrachée et emportée loin de moi, comme une tente de berger. Comme un tisserand, j'arrive au bout du rouleau de ma vie et les fils de chaîne sont coupés. Du jour à la nuit, tu en auras fini avec moi. Avant le matin, je serai réduit à rien. Comme le lion, il a broyé tous mes os. Du jour à la nuit, tu en auras fini avec moi. Comme l'hirondelle ou le passereau, je pépis, je roucoule comme la colombe. Mes yeux levés vers toi n'en peuvent plus. Seigneur, je suis écrasé. Interviens pour moi. Que dirais-je pour qu'il me réponde? Car c'est lui qui agit. Je dois traîner toutes mes années avec l'amertume qui est la mienne. Le Seigneur est auprès des siens. Ils vivront et son esprit animera tout ce qui est en eux. Aussi, tu me rétablis et me fait revivre, mon amertume s'est changée en salut. C'est sur ce dernier verset que portera ma prédication, mais d'abord, encore une histoire de rétablissement dont je vous lis le début dans l'évangile de Matthieu, chapitre 8, des versets 5 à 8. Comme Jésus était entré dans Capharnaüm, un centurion l'aborda et le supplia, « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, paralysé et violemment tourmenté. » Il lui répondit, « Moi, je viendrai le guérir. » Et le centurion reprit, « Seigneur, ce serait trop d'honneur pour moi que tu entres sous mon toit. Dis seulement une parole, et mon serviteur sera guéri. » L'Éternel seul est ma lumière, je vous invite à prendre ce chant, les strophes 1, 4 et 6, avec la quatrième strophe qui reprend ce thème, « Réponds-moi donc », le thème de la prière d'Ézéchias.
Jacques,
Seigneur, nous te prions de renouveler nos vies. Elles sont parfois si fragiles, si sombres. Et comme Ézéchias, comme le centenier, nous te prions, donne-nous une parole. Dis seulement un mot. Car ta parole nous est offerte et cependant nous résiste. Elle est forte et cependant s'estompe, fragile sous le flux des mots. Elle est limpide et cependant cachée. Elle se cherche comme à tâtons. Apprends-nous à chercher, scruter, patienter, demander. Ne nous laisse pas nous décourager, car c'est toi-même, Seigneur, qui nous parle comme un ami parle à son ami. Le rétablissement, un mot que nous employons souvent de manière relativement banale quand nous souhaitons à quelqu'un un bon rétablissement, mais un mot qui peut aussi porter tout un programme de vie. Je l'ai redécouvert à l'occasion d'un congrès de psychiatrie organisé par la Fondation John Bost, pour travailler justement ce concept de rétablissement, qui est la traduction de l'anglais « recovery », concept qui se répand dans le champ du soin des personnes souffrant de handicaps psychiques ou mentaux. Il est né et s'est développé à la fin du XXe siècle aux États-Unis, au sein de personnes atteintes de schizophrénie qui, lassés d'attendre une guérison improbable, se sont en quelque sorte révoltés contre la situation de dépendance qui leur était ainsi faite, et leur slogan a été « Nothing about us without us », en réclamant qu'on les aide à développer leur capacité à être acteurs de leur existence et à s'intégrer le mieux possible dans la vie sociale. Une personne qui a vécu ce cheminement témoigne. C'est une attitude, une façon d'aborder la journée et les difficultés que l'on y rencontre. Cela signifie que je sais que j'ai certaines limites et qu'il y a des choses que je ne peux pas faire. Mais plutôt que de laisser ces limites être une occasion de désespoir, une raison de laisser tomber, j'ai appris qu'en sachant ce que je ne peux pas faire, je m'ouvre aussi aux possibilités liées à toutes les choses que je peux faire. Et le chercheur américain William Anthony définit le rétablissement comme un processus profondément personnel et singulier de transformation de ses attitudes, de ses valeurs, de ses sentiments, de ses buts, de ses compétences et de ses rôles. C'est une façon de vivre une vie satisfaisante, prometteuse et utile, en dépit des limites posées par la maladie. Le rétablissement implique l'élaboration d'un nouveau sens et d'un nouveau but à sa vie, en même temps que l'on dépasse les effets catastrophiques de la maladie mentale. Vous le voyez, le rétablissement se différencie ainsi de la guérison par le fait que ce n'est pas une tentative de retour en arrière. Avant le temps de la maladie ou du handicap, mais c'est plutôt, on pourrait dire, la possibilité d'un retour en avant, vers une nouvelle page de vie qui peut s'ouvrir. Une page différente, mais où l'on peut retrouver une satisfaction, un plaisir, un sens et même un bonheur de vivre. Ainsi compris, le rétablissement pourrait être une perspective envisageable pour bien d'autres situations, non seulement la maladie mentale ou la maladie en général, mais aussi les graves accidents de la vie, les catastrophes personnelles, les deuils difficiles, les ruptures, les divorces, les pertes d'emploi brutales, les conflits, les haines qui déchirent, tout ce dont on ne guérit pas vraiment, mais qui laisse dans la vie des blessures profondes et durables. On peut même penser au vieillissement, dont on ne guérit pas non plus, parce que ce n'est pas une maladie, mais où des rétablissements sont certainement possibles. Albert Camus écrivait « L'important n'est pas de guérir, mais de vivre avec ses maux. » Et vous connaissez le travail de Boris Cyrulnik, qui a scientifiquement décrit cette résilience, c'est-à-dire cette faculté de se servir même de ses blessures pour rebondir dans la vie. C'est ce rétablissement, comme retour en avant, qu'Ézéchias vit dans le parcours spirituel que décrit sa prière. Vous l'avez entendu. D'abord, il prend conscience de sa mort prochaine avec un sentiment de révolte. Quand mes jours sont en repos, voilà que je dois m'en aller. Je suis privé du reste de mes jours. Puis il se résigne. Du jour à la nuit, tu m'auras achevé. Et il supplie. Je gémis comme la colombe. En entamant avec Dieu une sorte de négociation, que dirais-je ? Alors, brusquement, une parole lui revient en mémoire, peut-être un texte prophétique ou liturgique. Le Seigneur est auprès des siens, ils vivront et son esprit animera tout ce qui est à eux. Et Ézéchias s'approprie cette parole de confiance qui produit en lui un changement essentiel. Il ne se voit plus comme un mourant, mais à nouveau comme un vivant. Et sa prière peut se terminer en louange. Tu me rétablis et tu me rends la vie. Mon amertume s'est changée en paix. Ézéchias a-t-il été guéri ? Les textes hésitent. Celui du livre d'Ésaïe peut le laisser penser, alors que celui du livre des Rois parle plutôt d'une prolongation de vie, une sorte de rémission dans sa maladie. Quoi qu'il en soit, dans le texte biblique, ce n'est pas sa guérison éventuelle qui rétablit Ézéchias, mais c'est la parole entendue. Parole sur Dieu et parole de Dieu qui est devenue sa parole. La racine hébraïque du verbe qui est traduit par « tu me rétablis », qui est un verbe relativement rare, renvoie à deux idées. Celle de rêver, d'avoir une vision, une révélation. Et puis celle de devenir fort et vigoureux, comme cela se produit dans un destin inéluctable. Le rétablissement ici décrit, c'est donc une sorte de vision de soi qui permet de se construire et de résister. Une vision de soi qu'Ézéchias a reçue par la foi. Ici, la foi comme confiance dans une parole plus importante que la parole de mort que lui transmettait Ésaïe. Le caractère essentiel de la parole traverse de nombreux textes bibliques, à commencer par le récit de la création, œuvre d'une parole qui distingue en nommant. Création du monde par la parole de Dieu, puis par la parole humaine, ce qui entraîne une idée de création non finie, mais qui est toujours à établir et à rétablir. On pourrait là-dessus faire un sermon sur l'écologie. Ou encore le magnifique prologue de l'évangile de Jean, « Au commencement était la parole ». Et jusque dans le détail de récit, comme celui de la guérison du serviteur du centurion que je vous ai lu tout à l'heure, dit seulement un mot, confesse le centurion. Et Jésus est admiratif. Car le centurion a compris que la vie, c'est d'abord et surtout un acte de parole. Pendant la préparation du colloque que le professeur Pachoux, professeur de psychiatrie ici à Paris, qui animait ce colloque, avait posé la question de l'arrière-plan théologique de ce concept. Car il constatait que, né aux États-Unis, dans le mouvement de l'empowerment où on retrouve le théologien Emerson, sur lequel le regretté Raphaël Picon avait attiré notre attention ces derniers temps. Né aux États-Unis, il se développait assez facilement au Canada et en Suisse, tous pays marqués de culture protestante, mais rencontrait de fortes résistances dans un pays de culture catholique, disons plutôt peut-être romaine, comme la France. Ce qui m'avait amené à souligner devant le colloque plusieurs points de rencontre entre protestantisme et rétablissement. D'abord, le concept de rétablissement met au premier plan la personne individuelle concrète, avant toute norme, tout principe, toute vérité préconçue sur la nature humaine. Accompagner un rétablissement, c'est prêter attention à un être unique avec son cheminement unique et non pas suivre un protocole. Ensuite, pour accompagner ce rétablissement, il est nécessaire que l'institution, bien sûr il s'agit d'abord des institutions sanitaires et médico-sociales, mais on peut penser en arrière-plan à l'institution Église, il faut que l'institution soit le lieu du débat et non le siège de la vérité. Elle doit permettre le dialogue entre la personne accompagnée et ses accompagnants pour déterminer le chemin de rétablissement que la société va pouvoir accepter et soutenir. Et enfin, le rétablissement est événement de parole. Et on peut évoquer là deux grandes figures protestantes contemporaines, Jacques Ellul et son incessant plaidoyer pour la parole qui libère contre la dictature de l'image, ce qu'il avait d'ailleurs mis en œuvre dans la création de groupes de parole pour aider à la réinsertion sociale de personnes en difficulté, et Paul Ricoeur et son concept d'identité narrative sur lequel je reviendrai. Tu me rétablis et tu me rends à la vie. Comment recevoir cette parole aujourd'hui? Je vous propose une réflexion en trois étapes. D'abord, une première proposition. Pour construire notre vie, Dieu nous offre sa parole. Les débats éthiques actuels ont remis au premier plan une vieille question: qu'est-ce que la vie? Un fonctionnement biologique, un fonctionnement psychique, mais alors, lorsque ces fonctionnements s'altèrent, on se pose inévitablement la question du maintien de la vie, de sa qualité, de sa dignité, de sa valeur. Pas seulement dans le débat public, mais dans nos propres cheminements intimes, ce qui peut amener à bien des dépressions ou des renoncements. Ou bien la vie serait-elle une performance, une qualité dans la relation ou l'action? Mais alors, lorsque surviennent la vieillesse, la dépendance, le handicap, la vie ne serait-elle plus là? Le rétablissement que décrit la prière d'Ézéchias, c'est un retournement. Ne plus chercher sa vie en soi-même, dans sa propre existence ou ses propres qualités, mais la recevoir d'une parole. Une parole reçue d'un autre qui me reconnaît comme être vivant, d'un autre qui m'aime. Et fondamentalement, une parole reçue de Dieu. Je suis parce que Dieu me parle, même si je l'entends mal ou si je ne l'entends plus. Je parlais de retournement. En langage biblique, cela s'appelle conversion. La parole nous appelle à une conversion de vie. Ma vie, ce n'est pas ce qui est en moi, c'est ce qui me tourne vers l'autre. Et c'est d'abord Dieu qui se tourne vers moi. Ainsi, être par la parole, c'est être capable de conversion, être capable de bouger, écouter, se tourner, changer, grandir. Et non se figer dans une image de soi idolâtrée, mais sclérosée et mortifère. Ce qui m'amène à ma deuxième proposition, la parole construit notre identité. La question de l'identité, ce qui fait que je suis moi, est aujourd'hui, vous le savez, devenue sensible, parce qu'un discours devenu courant la décrit essentiellement comme menacée. Mon identité, c'est ce qui est menacé par les autres. Les autres étrangers, présentés comme des envahisseurs, mais aussi les autres proches qui viennent manger mon espace, me freiner, me gêner, m'empêcher d'être, comme si l'identité était monolithique, pure ou intangible. Une identité vivante, au contraire, c'est une identité qui se construit de toutes les strates que la vie apporte, de ses constances, mais aussi de ses découvertes et de ses ruptures. Pour décrire cette construction, Paul Ricoeur parle d'identité narrative, le récit de soi que chacun fait dans son intimité, quand il se dit ce qu'il pense être, mais aussi devant les autres, parce que chacun a besoin de recevoir de l'autre de la reconnaissance. Ce récit de soi qui peut être une réclamation. On ne me reconnaît pas tel que je suis. Ou une protestation, par exemple, quand on essaie de se justifier. Ou une plainte. Je ne suis plus celui que j'étais. Ainsi, chacun s'établit, ou malheureusement parfois se détruit, au travers du récit qu'il fait et refait sans cesse de lui-même, évidemment en interaction avec tous les autres récits qui le concernent. Je me souviens de la protestation d'une femme qui avait connu une dépression profonde et qui disait à son entourage familial « Merci pour vos soins attentifs, trop attentifs même, parce qu'en me décrivant toujours comme une malade, vous m'empêchez de guérir vraiment. Je ne suis pas une malade, je suis votre sœur et j'attends de vous que vous me reconnaissiez comme votre sœur. » Notre parole a le pouvoir d'abîmer, d'enfermer, de détruire ou de rétablir selon qu'elle méprise ou apprécie, qu'elle diminue l'autre ou le reconnaît dans sa dignité. Notre parole a le pouvoir de nous abîmer, de nous enfermer, de nous détruire ou de nous rétablir nous-mêmes. Et la parole de Dieu nous est offerte pour soutenir notre propre parole. Car dire sa vie en l'inscrivant dans l'histoire du salut, pouvoir ainsi se dire, se recevoir, parfois malgré tout et contre tout, comme quelqu'un que Dieu connaît, aime, appelle, sauve et établit en Christ comme sa fille ou son fils, c'est s'inscrire dans un récit fiable et durable, c'est recevoir une vie fiable et durable. Car la parole nous rétablit même dans notre vulnérabilité inéluctable. C'est ma troisième et dernière proposition. Car que se passe-t-il lorsque notre vie est atteinte et atteinte durablement dans toutes ces situations que j'ai déjà évoquées, maladie grave, handicap permanent, deuil douloureux, perte d'autonomie, ces situations dont on ne guérit pas? Comment peut-on s'y rétablir? Vous l'avez entendu, se rétablir, c'est vivre tel que l'on est. C'est vivre en cessant de mesurer sa vie à l'aune de la menace qui pèse sur elle, ou du handicap qui la limite, ou de son usure, ou même des canons de performance que notre société établit, mais la vivre pleinement, avec toutes ses possibilités, même si elles sont limitées. Et si l'on y réfléchit bien, les possibilités de toute vie sont limitées. La parole de Dieu nous rétablit parce qu'elle nous ouvre des possibilités de confiance, de liberté, de pardon, parce qu'elle est promesse de bienveillance et de fidélité. Le Seigneur est auprès des siens, ils vivront et son esprit animera tout ce qui est à eux. Je vous ai parlé de conversion, de rétablissement. Peut-être oserais-je parler aussi de résurrection. Car la résurrection du Christ est-elle autre chose que son rétablissement par la parole de Dieu? Par cette parole qui nous rencontre aujourd'hui de diverses manières, comme elle a rencontré les femmes au tombeau. « Femme, pourquoi pleures-tu ?» Ou les disciples dans la chambre haute, « Ne craignez pas, au bord du lac, jetez le filet. » Cette parole qu'il explique à ses disciples sur le chemin d'Emmaüs, la parole qui, à notre tour, nous le fait reconnaître, lui, le vivant. Notre résurrection à nous est-elle autre chose que notre rétablissement par la parole de Dieu et dans la parole de Dieu, la parole qui nous touche au travers des épreuves de nos jours et même au travers de la mort. Cette parole nous est toujours donnée pour établir et rétablir notre vie. Parole proposée. Le Seigneur est auprès des siens. Ils vivent et son esprit anime tout ce qui est en eux. Parole reçue. Tu me rétablis. Tu me rends à la vie. Mon amertume se change en paix. Amen. Je vous propose de chanter le cantique numéro 78, Père éternel et bon, les trois strophes de ce cantique. Quelques paroles de ce vieux choral sont un peu surannées, mais je crois qu'il décrit bien ce retournement vers Dieu que j'ai tenté de vous présenter.
Oh.
Prendre place. Un grand, grand merci donc au pasteur Marcel Manoël. Alors je passe la parole à un autre pasteur, le pasteur Marc Schaeffer, qui en plus d'être un paroissien avec toute sa famille, ce qui est vraiment une joie, il est aussi organisateur d'un grand rassemblement de jeunes protestants.
Voilà, je vais vous dire deux mots sur le Grand Kiff, ce rendez-vous qui a lieu cet été à Saint-Malo pour et avec les jeunes. Vous en avez peut-être déjà entendu parler ce matin si vous avez écouté le service protestant sur France Culture avec Simon Wiblet. Alors, je ne vais pas être aussi long que lui maintenant, mais juste vous inviter. Effectivement, c'est le moment de s'inscrire pour les 15-20 ans, pour vivre ces 5 jours du 24 au 28 juillet, à la fois festifs, bibliques et spirituels. 5 jours de rencontres, de partages, d'échanges. Et puis, c'est un rassemblement pour et avec les jeunes, donc pour les 15-20 ans, mais aussi avec les 18-30 ans qui peuvent vivre 15 jours à Saint-Malo au service de ce rendez-vous qu'est le Grand Kiff, une semaine pour préparer et puis vivre aussi des temps forts ensemble. Alors, je suis là à la fin du culte pour répondre aux questions s'il y en a.
Okay, merci beaucoup Marc. Donc si vous avez des enfants, petits-neveux et nièces, vous savez à qui vous adresser. Donc ce dimanche, il y a un temps d'accueil et de rencontre. Vous voyez déjà que la porte s'est commencée à s'entrouvrir sur un magnifique table qui permet d'avoir un moment de partage entre nous. Donc c'est sympa et c'est vrai que ce moment de fraternité est important pour pouvoir échanger entre nous. Alors cet après-midi, il y a un temps, une après-midi culturelle. Alors vu le beau temps, je pense que ça sera plus à l'intérieur. Alors ceux qui voudraient participer à ce temps peuvent pique-niquer puis ensuite partir avec ceux qui ont organisé cela. À 14h ici, il y a le baptême de Sacha Blaise Cambécédès. Donc pour entourer cette famille, si vous voulez venir, c'est possible aussi. Mardi, il y a la conférence signature avec le pasteur Laurent Gagnebin. Donc c'est mardi à 19h30 en face, donc à la salle Mono, aux 4 rues de l'Oratoire. Alors ce petit livre en fait qu'il a écrit, J'ai peur de la mort, est non seulement vraiment intéressant au point de vue intellectuel, mais par ailleurs profondément touchant, sincère et vrai. Donc vous pouvez vous le procurer au comptoir librairie, bien sûr. Vous pouvez aussi aller à cette conférence mardi soir. Donc, Laurent Gagnebin dialoguera avec la psychanalyste Catherine Bergeret-Amselec. Et je pense que ça sera une soirée tout à fait passionnante. En plus du livre qui est, à mon avis, très très profond pour nous aider à avancer sur cette question de la mort. Jeudi, il y a la répétition du chœur. Il prépare donc un concert Rossini qui aura lieu ici même le 19 juin à 16h. Dimanche prochain, il y a le culte avec mon collègue James Woody. Ce sera son avant-dernier culte à l'oratoire avant son départ pour Montpellier. Le dernier étant le 26 juin, le jour où l'oratoire lui rendra plus particulièrement un témoignage de sa reconnaissance et entourera donc James et puis toute sa famille. Alors ça sera le moment donc vraiment de lui dire au revoir. Mais nous avons encore donc quelques semaines pour, pour être avec lui. Alors dimanche prochain, il y a ici un culte avec, qui sera suivi donc, d'un repas paroissial, comme chaque premier dimanche du mois, d'octobre à juin. Et celui de juin, c'est en particulier avec les amis de la paroisse d'Amparibé à Madagascar. Alors vous pouvez vous inscrire aussi à la librairie ou bien dans la semaine à l'accueil pour signaler votre intention de venir à ce repas, mais on pourra aussi y aller sans s'être inscrit. Alors enfin, le 7 juin, il y a une conférence, alors c'est donc la semaine d'encore après, mais on a voulu vous l'annoncer d'avance, mardi 7 juin à 20h, il y a une conférence de Geneviève Jacques, qui est la présidente de la CIMADE. Alors maintenant, pour pas que les annonces soient plus longues que la prédication, donc je vais plutôt laisser la place à nos diacres qui vont recueillir notre offrande pour ce dimanche. Merci beaucoup.
Je vous invite à terminer ce culte en entrant dans un temps de prière d'intercession. Intercéder, c'est d'une certaine manière s'identifier à l'autre, à tel point que naisse en nous la compassion, car la compassion ouvre à la prière. Intercéder, c'est d'une certaine manière être prêt à ce que le don de nous-mêmes soit la réponse de Dieu pour ce que nous lui avons présenté. Intercéder, c'est d'une certaine manière apprendre Dieu, apprendre à croire en Dieu de façon réelle, confiante. Et plus encore, apprendre quel amour souffre avec nous lorsque nous souffrons. Sinon, qui serait ce Dieu auquel nous nous adressons? Nous te prions, oui Seigneur, pour les personnes qui souffrent, pour celles et ceux qui sont traités injustement, celles et ceux qui sont privés de liberté, celles et ceux dont l'identité est bafouée, celles et ceux qui sont privés de travail, de repos, de loisirs, de soins médicaux appropriés, d'éducation. Nous te prions pour les communautés, les nations dont les droits sont violés. Seigneur, avec elles et eux tous, rétablis-nous. Donne-nous la guérison, la réconciliation, la justice et la paix. Nous te le demandons en Jésus le Christ, notre Seigneur, qui nous a appris à te prier, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Au psaume 41, heureux celui qui pense aux faibles. Au jour du malheur, le Seigneur le délivre, le Seigneur le garde vivant et heureux sur la terre. Voici à quoi, Seigneur, je reconnais ta bienveillance. Pour toujours, tu m'as rétabli devant toi. Dieu nous bénit et nous garde. Il nous accorde sa grâce. Il tourne sa face vers nous et nous donne la paix. Amen.
Oh Dieu, nos